Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui un épisode sur l'entreprise HugoWork. Située à Québec, HugoWork fabrique et conçoit depuis 2015 des systèmes de batteries lithium-ion pour véhicules industriels, notamment pour des chariots élévateurs. Donc pour cela, j'ai la chance d'avoir comme invité nul autre que l'ingénieur mécanique principal chez HugoWork, Marc-Olivier Lacerte. Marc-Olivier, bienvenue au podcast.
Merci de m'inviter.
Ça me fait plaisir, ce n'est rien. Donc, on aime toujours ça, c'est ça, inviter des gens qui font des projets de maîtrise, des projets de doctorat. Et là, ça fait quelques fois qu'on invite des gens qui représentent des entreprises. Donc là, dans le cas de HugoWork, peut-être pour commencer, ça serait peut-être une bonne idée, je me disais que... Si tu pouvais décrire un petit peu l'entreprise, qu'est-ce que ça fait HugoWork? Je l'ai mentionné rapidement dans ma description, là, commencer puis se mettre un peu dans le bain avant d'aller plus dans le détail.
Tout à fait. Mais avant de commencer, je veux juste dire que le monde est vraiment petit. J'ai écouté quelques-uns de tes podcasts que tu avais publiés pour voir un peu c'était quoi. Puis j'ai vu un ancien podcast, plutôt récent, qui parlait des embrayages magnétoréologiques avec Jean-Sébastien Plante. Puis dans le fond, Jean-Sébastien, ça a été mon directeur de recherche à la maîtrise. Très, très, très intelligent, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça particulier que j'entende parler de ça, puis ça m'a rappelé des bons souvenirs. Jean-Sébastien, c'est un homme incroyable, aux mille vertus, donc pour HugoWork.
C'est nice, mais tu sais, c'est vraiment hot, puis en passant, c'est ça, Jean-Sébastien, c'est une personne que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer, puis c'est ses étudiants, tu sais, que je connais un petit peu. Puis j'essayais de dire à Fred, là, quand j'y parlais, j'étais comme, tu sais, écris-lui, là. Puis tu sais, je disais, ça y tente de venir, là, il pourrait venir en parler, puis tout. Mais tu sais, je comprends que c'est quelqu'un de très occupé, comme beaucoup de profs. Ouais. Donc, en tout cas,
très bon vulgarisateur aussi.
Mais merci beaucoup d'avoir écouté un épisode. Excuse-moi, je t'ai coupé.
C'est bien correct. Donc, en fait, HugoWork, ça a démarré c'est une spin-off de l'Université de Sherbrooke. C'est Philippe Beauchamp et Rami Jargeau qui ont fait une maîtrise là, dans un incubateur à Sherbrooke qui s'appelle l'ACET. Puis, ça n'avait pas trop effectif. Où est-ce qu'il se rendrait dans l'exercice? C'est un peu ça que ça... C'est un accélérateur vers... ça prend des gens motivés, puis ensuite, il suffit de trouver une idée, puis un écosystème pour que ça puisse aboutir à quelque chose d'intéressant. Puis, c'est à partir de ce spin-off-là qu'il y a eu l'idée d'améliorer, en fait, vraiment le sort des chariots élévateurs électriques. C'est un marché vraiment peu connu... Mais c'est un marché... C'était il y a quelques années quand on a commencé l'entreprise. C'était un marché vraiment désuet, obsolète. Ça ne faisait pas vraiment de sens compte tenu des technologies ou des avancées des batteries au lithium dans d'autres applications. Puis il y aurait vraiment eu une opportunité qui s'est présentée à Philippe puis Rami. Puis, donc moi, je me suis greffé à eux là, en janvier 2015 avec Gabriel Pouliot, qui est mon ami de maîtrise en fait d'ailleurs. Là.
OK, donc toi, t'es quand même dans les premiers employés de la compagnie, de ce que je me rappelle, de ce qu'on parlait.
Tout à fait. Moi, il y avait une idée, il y avait même un brevet qui était en cours. T'sais, l'idée était claire, mais le produit n'était pas du tout défini. Donc, quand j'ai joint en janvier 2015 avec Gabriel, donc là, on était quatre ingénieurs, trois ingénieurs en électrique, moi, j'étais le seul en mécanique. Donc, on avait en fait tout à faire. Là. Déterminer c'est quoi le produit. Il était même question d'avoir une flywheel. Donc, à ce moment-là, c'était une roue d'inertie. Il y avait même des idées de vouloir breveter ça. On a fait des prototypes fonctionnels. Ça a beaucoup évolué depuis. Mais, j'ai fait partie depuis les débuts. Donc, j'ai eu la chance de voir l'entreprise grandir. Puis, ça s'élargir à un point où aujourd'hui, j'en suis extrêmement fier.
Ben oui, c'est assez grand. Avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste mentionner que je considère que je suis tellement chanceux de pouvoir travailler à Québec ben c'est sûr que c'est pas une ville absolument énorme comme Montréal, mais on est quand même chanceux qu'à Québec, il y a plein d'entreprises comme HugoWork qui ont des produits, qui travaillent dans des industries, extrêmement, pas extrêmement, mais quand même assez niche. Tu sais, bon, là, des batteries de chariots élévateurs. Le dernier épisode du podcast, on avait, c'était avec Rhino Vision qui font des appareils de détection pour des inspections de regard. Donc, des trous d'égout et tout ça. Fait quelque chose de vraiment cool. Mais là, avant d'aller plus loin, je suis juste vraiment curieux. C'est quoi l'affaire de la flywheel? Donc, vous développiez des batteries qui se rechargeaient par une genre de grosse roue d'inertie qui tournait? C'est quoi, j'ai jamais...
En fait, la vision, c'était que la flywheel, c'était l'organe de puissance. Comme un peu comme un condensateur, un équivalent d'un condensateur, sauf qu'il y aurait une durée de vie, aussi un coût. On avait des objectifs de coût assez, assez ambitieuses. Et une durée de vie également plus supérieure. Donc, la flywheel aurait été l'organe de puissance. Parce qu'un chariot élévateur électrique, il faut comprendre que c'est que des pointes de puissance dynamique. Donc, lever une charge, descendre une charge, accélérer, freiner. C'est vraiment loin d'un profil constant, moyen, qui est doux. Donc, l'idée, c'était également d'avoir une batterie de petite taille. Et parce que une batterie au lithium pourrait, dans la vision qu'on avait du produit, se recharger lorsque le cariste prend des pauses, va dîner. Donc, ça ne prend pas une très grosse batterie pour subvenir entre deux chiffres, un petit chiffre de travail, là, interlacé de deux pauses. Donc, batterie au lithium qui fournit l'énergie moyenne requise, puis une organe de puissance, donc une flywheel, qui, elle, va accepter, délivrer, puis recevoir toute l'énergie régénérative que le chariot élévateur produit lorsqu'il qu'il descend une charge.
Fait qu'on récupère de l'énergie finalement quand il descend ou quand il fait des trucs qui lui en redonnent. Okay.
C'est encore le cas aujourd'hui, malgré que la flywheel ait été mise de côté, il y a toujours du freinage régénératif qui se fait à la batterie. Là.
Ça, c'est tu vois, c'était même pas une question que j'avais, mais c'est un aspect qui est quand même assez intéressant parce que, tu sais, bon, là, juste l'autre fois, j'étais dans mon ami, il y a une, je pense que ça s'appelle une Bolt ou une Volt, tu sais, les autos électriques de Chevrolet. Puis là, on descendait dans une côte, puis là, tu sais, il me montrait un peu la régénération, comment ça s'affiche et tout. Puis je trouve ça quand même intéressant de pouvoir dire, juste quand tu descends une pente, tu recharges ta batterie, en tout cas. Bon, c'est une parenthèse. Mais là, il y a une affaire aussi que j'étais curieux un peu. Bon, tu nous as décrit un petit peu c'est quoi l'entreprise. Tu nous as décrit ensuite de ça, qu'est-ce que tu y fais généralement, peut-être, ou d'où tu as commencé dans l'entreprise, mais est-ce que ce serait possible de nous décrire? Justement, je pense que tu travailles pas mal dans les tests, juste sommairement, avant qu'on aille un peu plus dans le détail. Là, c'est-tu un peu ça que tu fais là-bas?
Oui, en fait, ben, je suis à la base un concepteur mécanique. Donc, on imagine qu'il y a une idée, il y a un besoin un problème qui vient à nos oreilles dans notre marché et que là, on réalise qu'il y a comme une opportunité de rencontrer, de régler le problème. Moi, je vais faire partie de l'équipe qui va concevoir du point de vue de la mécanique, là, parce que c'est une batterie en général, là, mais différents modèles de batterie, différentes tailles. Le battery pack, on est très, très impliqué dans la conception de la batterie, là, de la cellule à l'ensemble complet. Donc, beaucoup impliqué dans le design, mais également, comme tu dis, dans les essais, la validation expérimentale, les essais destructifs, même également... Dans les récentes années, il y a des besoins d'être certifié auprès du UL, donc très impliqué dans la certification des produits. L'introduction en production. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe d'ingénierie de production qui est plus importante et qui est présente. Mais dans les débuts, il n'y avait pas d'ingénierie de production. C'était la R&D qui en avait le dos large. Donc, on faisait également de ça. On le fait encore aujourd'hui, mais un peu plus en mode support. Vraiment, il y a une transition à l'ingénierie de production. Puis après ça, ben, c'est vraiment, il y a un takeover vers les opérations puis la production proprement dit.
Ouais, c'est ça. L'entreprise a quand même assez grossi, j'imagine, c'est ça, en 10 ans. Ça fait même pas 10 ans, finalement. C'est ça qui est quand même intéressant là-dedans. Là. On voit une grande croissance de ça. Mais oui, bon, là, tu parles des produits, puis tu parles du... parce que là, ça, il y a quelques instants, tu as mentionné, c'est ça, par rapport aux différentes configurations des produits. Quand on parle d'une entreprise, peut-être que c'est un bon point de départ. Quand on a, dans le fond, j'essaie de trouver comme la bonne manière de formuler ça, mais on a une entreprise, on a des produits qui sont assez niches, bon, dans le domaine des chariots élévateurs. On veut innover, mais en même temps, on veut quand même réutiliser les concepts qu'on a. Puis c'est une question qu'on a soulevée justement dans le dernier épisode avec Rhino Vision. Puis lui, ce qu'il mentionnait, c'était avoir une certaine proximité avec les demandeurs, avec les clients pour être sûr d'avoir quelque chose de cohérent, puis quelque chose pourquoi il y a vraiment un besoin. Mais tu sais, on a une plateforme, vous avez une plateforme de batterie, vous avez des modules qui s'enlèvent puis qui s'interchangent, mais là on va faire une flotte de ça. Donc en tant qu'agent mécanique, c'est quoi un peu les défis reliés à ça, puis comment vous faites un peu pour répondre à ce besoin-là qui peut être très large?
Oui, ben en fait, aux yeux du client, lui, notre catalogue de produits a quelques dizaines de produits. Puis ce qui est important, il y a... Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on est une entreprise qui est en forte croissance. Donc, on va presque doubler nos unités produites chaque année. Donc, on peut se ramener quelques années dans le passé puis imaginer qu'on n'a pas des très grosses ventes. Là. mais on veut subvenir à un catalogue de produits qui est assez grand, donc plusieurs formats, plusieurs tailles, plusieurs poids de batterie. Ben, on ne peut pas commencer à avoir des modèles uniques ou des modèles spécifiques à chacun. Donc, ce qui a été un facteur de succès jusqu'à maintenant, ça a été d'uniformiser ou de concevoir un cœur unique et de découpler les contrepoids. On y reviendra, j'imagine, plus tard parce que pourquoi il faut mettre des contrepoids sur nos produits. Mais de découpler les contrepoids avec le cœur de la batterie, puis finalement faire beaucoup de réutilisation des composantes pour finalement alléger la charge de conception à chaque fois qu'on a un nouveau modèle à sortir. Donc ça a été vraiment un facteur de succès. Évidemment, ça ajoute un peu de complexité d'avoir cette approche-là. Éventuellement, quand il y aura des milliers de batteries à produire chaque année, on pourra re-questionner le besoin d'avoir des unités spécifiques qui ont peut-être plus de pièces pour finalement réduire le nombre de pièces parce que là, il y a une demande tellement grande dans chacun qu'on peut avoir un œil différent face à l'approche. Mais ça a été un facteur de succès de combler vraiment. Puis après ça, une fois que tu as un cœur de batterie qui est développé, puis qui est stable, qui est éprouvé, fonctionnel et testé de bord en bord, eh bien là, si on veut avoir un nouveau modèle de batterie, ben si ça ne nécessite qu'un seul contrepoids, ben c'est très rapide à concevoir. C'est greffé un peu plus large, un peu plus haut, plus lourd, plus léger. C'est vraiment, vraiment rapide. Puis aux yeux du client, ben c'est un nouveau produit. Pour nos ventes, c'est un nouveau modèle, mais pour le groupe de mécanique, c'est un contrepoids seulement.
Donc, c'est ça, ben là je comprends, c'est ça, bon ok, je comprends l'idée, donc on a un cœur commun, donc le cœur commun et puis c'est l'habillage qu'on vient changer un peu à chaque fois, l'habillage et le contrepoids, puis là c'était un point que je m'étais noté, puis dès mes rencontres préliminaires avec Rami, un point que je m'étais noté puis j'y avais soulevé, que j'avais réalisé, c'est comme ok, vous autres vous avez des requis de poids minimal parce que vous avez des chariots élévateurs, vous levez des masses. Donc, pour éviter que le chariot il tombe et il pique le nez, il faut que tu ailles un contrepoids. Puis de ce que je comprends, les batteries sont assez lourdes généralement. Donc là, vous, dans vos cahiers des charges, j'imagine contrairement à 99% des cahiers des charges des ingénieurs mécaniques dans le monde, vous avez un poids minimal. Parce que moi, souvent, les poids que je dois respecter, il faut que je sois en bas d'un certain poids. Mais vous, c'est drôle un peu, mais c'est comme l'inverse.
C'est l'inverse. Ben, il y a un poids maximal aussi à ne pas excéder pour user ou briser, mettons, des composantes mécaniques sur un chariot. Mais... En fait, il faut se ramener un peu en arrière. On imagine qu'il y avait le plomb acide qui était vraiment la seule technologie qui était utilisée pour les chariots élévateurs jusqu'à quand même tout récemment. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de batteries plomb acide dans le marché. Okay. Puis, une batterie plomb acide, elle n'a pas une densité d'énergie très importante. Donc, pour rencontrer l'autonomie du véhicule pour finalement rencontrer les opérations du client. Ça prend une très, très grosse batterie, très lourde. Puis, les chariots élévateurs n'évoluent pas à chaque année. T'sais, la migration du plomb acide vers le lithium n'a pas impacté la conception des chariots élévateurs du jour au lendemain. Donc, c'est beaucoup plus dans un mode rétrofit. Rétro-compatible à quelque chose. Qui a été conçu initialement pour du plomb acide. Donc, oui, effectivement, il y a des poids minimums. Parce qu'en fait, également, quand tu offres une batterie au lithium, l'autre élément que je n'ai peut-être pas expliqué, c'est que la densité d'énergie du lithium-ion est beaucoup plus élevée, donc beaucoup plus léger pour la même énergie utilisable par le chariot. Donc, ça fait des unités plus petites. Donc, après ça, ben, il faut combler le trou.
Oui, avec la masse. Masse du dead weight quasiment. Là.
Ah, c'est un poids mort. C'est littéralement du poids mort qui n'a aucune autre utilité.
C'est quoi, vous mettez pas des poches de sable, là, mais c'est quoi du. Plomb, c'est dense, là, justement.
Non, parce que nous, en fond, Hugo Work, on est un des seuls, peut-être même le seul manufacturier à offrir une solution avec un chargeur intégré. On y reviendra probablement plus tard, plus en détail. Mais parce qu'on a un chargeur intégré, on a beaucoup d'espace dans la batterie qui est requise pour les chargeurs et d'autres composantes qui sont utilisées parce qu'on a des chargeurs intégrés. Donc, finalement, ça laisse pas tant d'espace pour imaginer un contrepoids, disons, qui n'aurait pas une très grosse densité, là, comme du béton, où, on pourrait exclure ça parce qu'on ne va pas rencontrer le volume. Parce qu'aussi, on a des requis de volume à ne pas excéder. Donc, c'est drôle à dire, mais à la fin d'une conception... d'un nouveau produit, ça va vraiment se jouer sur les millimètres. L'ajout de l'acier, puis les dégagements pour avoir les jeux fonctionnels, malgré qu'on s'imagine que c'est des poids morts, puis qu'il y a l'espace, on, en veux-tu, t'en as-tu? En v'là? Non, c'est pas ça du tout. Donc, ça, la, l'acier ou la fonte même est un peu moins dense. Donc, quand on a converti des contrepoids qu'on avait en plaques d'acier sous des lasers peinturés par de la fonte, eh bien, on a dû manger un peu dans les marges sur les jeux fonctionnels, même vraiment repenser certains éléments parce que la fonte, elle a peut-être quelques pourcents de moins de densité. Ça a une grosse incidence.
Wow,
donc, la fonte, l'acier, c'est pas mal les seuls matériaux aujourd'hui qu'on peut se permettre pour du poids mort, là.
Wow, OK. Fait que là, ouais, c'est ça. Puis la fonte, sais-tu que c'est moins dense à cause qu'il y a peut-être des petites bulles d'air, des petites porosités, peut-être qui font que c'est à cause de la manière que c'est coulé ou on sait tu pourquoi? C'est peut-être une question par rapport.
Je sais pas, en fait. Ben oui, il peut y avoir des porosités, mais je crois pas que ça explique autant de pourcents de moins de densité.
Ouais.
C'est une bonne question, en fait. Je n'étais pas prêt à cette...
Excuse-moi.
Ce que je sais, c'est que c'est moins dense, puis que la conception des joints, des boulons, ouais, tout ça, il faut vraiment veiller à ce que... Puis même la fabrication est complètement différente. Les angles de démoulage,
ouais,
on a quand même dû retravailler beaucoup le contrepoids pour le rendre moulable avec de la fonte.
Mais je comprends, mais c'est quand même surprenant, effectivement, que juste de changer de procédé a fait ça, puis j'imagine que vous êtes allé vers de la fonte pour optimiser un peu les coûts, pour faire avoir, ouais, plus de volume par rapport à vos contrepoids.
Exactement. C'est un exemple parfait de, ouais, au départ, on ne pouvait pas imaginer de la fonte couler parce que, également, tu sais, on a des petits volumes de fabrication il y a quelques années, mais aussi on a des... L'avantage, c'est qu'on a une vélocité, on a une agilité en tant qu'entreprise. Donc, on ne peut pas prendre un an et demi pour concevoir un produit au début d'une entreprise. Sinon, l'entreprise va mourir. Pas de revenus, tu ne peux pas payer des salaires. Donc, on ne pouvait pas se permettre de réfléchir ou même de travailler sur des procédés ou des fournisseurs qui sont un peu plus loin, des procédés qui ont des coûts d'outillage parce que tu veux une agilité dans la conception, tu veux une vélocité très rapide, tu veux des fournisseurs locaux idéalement. Donc, mais là, aujourd'hui, tu vois-tu, c'était différent parce que les volumes de ce produit-là augmentaient. Et là, c'était plus économiquement... C'était logique de changer à quelque chose de...
C'était rendu logique.
Plus économique, ouais.
OK, ouais, excuse-moi. Puis, OK, ouais, puis justement, par rapport à... Un peu par rapport à quand tu parles de... OK, t'as une entreprise naissante, t'essayes d'identifier vraiment un produit qui est vraiment ciblé sur les requis, t'as pas énormément de volume, évidemment, au début. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'identification du besoin pour une entreprise comme Hugo Work, avant qu'on aille un petit peu plus dans le détail du fonctionnement de l'appareil, tu sais, vu que c'est assez niche, je sais que c'est découle peut-être plus des fondateurs, Ami et Philippe, je pense que tu mentionnais.
Mm-hmm.
C'est d'où c'est venu un peu ce besoin-là. Tu me parlais, bon, au début, il y avait des batteries au plomb qui étaient peu efficientes. On a ensuite de ça des chariots élévateurs qui est important de mentionner que vous ne fabriquez pas les chariots élévateurs. Vous êtes un peu dépendant de cette technologie-là et de ces fournisseurs de chariots élévateurs-là.
Oui. Mais en fait, le besoin exprimé, en fait, le client avait un besoin et qui était capable d'exprimer, mais il y avait énormément de problèmes. Les problèmes étaient très visibles. Ce qui est probablement un des facteurs de succès au départ de l'entreprise, c'est que Rami et Philippe sont allés voir les problèmes et avaient un œil nouveau. En fait, n'avaient pas tout le bagage de fabricant de batteries au plomb, n'étaient pas imprégnés de la réalité du marché. Donc, je m'inclus à certains moments quand j'ai joint. On est arrivé avec un œil complètement nouveau. Donc, la sphère de solution pour nous était très logique parce qu'on n'avait pas les paradigmes que d'autres fabricants ou que les gens dans le marché avaient. Donc, en fait, le problème était très clairement identifié. C'est les opérateurs de chariots élévateurs électriques avec des batteries au plomb qui travaillent fort, plus de 2000 heures par année et plus, ils ont énormément de problèmes. Les problèmes parce que, un, ils n'ont pas la visibilité sur le statut de leur batterie, son état de santé. Il n'y a pas un indicateur qui dit « ta batterie va pouvoir être utilisée jusqu'à tel moment ». Après ça, il faut que tu penses à la remplacer. Et c'est pas du tout ce fonctionnement-là. L'entretien est requis. Il faut remettre de l'eau dans des batteries au plomb acide.
Ah ouais.
Ouais, donc le pH.
Ah,
on peut imaginer une... c'est pas les gens qui ont des entrepôts qui ont besoin d'un chariot élévateur. et d'une batterie pour mouvoir le chariot élévateur, ils ne sont pas experts en batterie. Et puis, eux, leur objectif, c'est de déplacer des palettes, remplir des camions. Pour eux, la batterie, c'est un mal nécessaire. Puis, de devoir l'entretenir, mettre de l'eau, regarder le pH, c'est pas quelque chose qu'ils aiment faire puis dont ils sont experts à faire non plus. Donc, ça dégrade la durée de vie énormément de la batterie. D'office, faible durée de vie de batterie plomb acide lorsqu'on les utilise dans des environnements sévères, donc à chaud, même à froid, de façon très, très, très constante, puis beaucoup de 1, 2, 3 chiffres par jour répétés dans l'année. Très signe de problème. Ensuite, l'efficacité énergétique, qui est assez médiocre, je dirais. Donc, la décharger génère de la chaleur, la charger génère aussi de la chaleur. Cette chaleur-là, ça vient de l'électricité du bâtiment, donc c'est des pertes que le client doit assumer dans sa facture d'électricité.
Fait que aussi, ça, c'est une... excuse-moi. Ah ben, je me demandais, ça doit être une assez vieille technologie, justement, les batteries au plomb. Puis là, ça fait-tu... Sûrement qu'en premier, c'était les chaleurs élévateurs au gaz avant la batterie.
Ouais, il y a des chariots élévateurs au propane.
Au propane,
ouais. Sauf que, tu sais, dans des applications intérieures où est-ce que, disons, dans un entrepôt qui stocke de la nourriture, on ne peut pas avoir de chariot au propane. Des chariots élévateurs extérieurs, il y en a encore, oui, au propane. Mais même, vois-tu, il y a des règlements qui vont passer en Californie, donc sous peu, d'ici, je pense, un an ou un an proche, qu'il y a des demandes ou des obligations de migrer de chariots propane vers l'électrique.
Ça devrait vous aider beaucoup, j'imagine. Ça devrait, oui. C'est le fun.
C'est des chariots de plus grosse capacité, c'est des batteries 80 volts aussi, donc c'est effectivement le cas. Puis aussi, dans le fond, il faut imaginer qu'une batterie au plomb, il y a plusieurs modèles disons d'affaires avec un chariot qui est électrique avec des batteries au plomb. Mais pour la plupart des utilisateurs, on parle de manipulation quotidienne. Donc, il faut sortir la batterie quand elle est déchargée. Il faut en mettre une batterie qui est chargée. La batterie qui est sur la charge va produire beaucoup de chaleur. Il faut après ça qu'elle refroidisse. Toute cette logistique-là amène beaucoup de problèmes. Et en fait, un point à non négliger non plus, c'est que charger une batterie au plomb produit de l'hydrogène. Donc, ça prend une salle à batterie qui est dédiée, qui est ventilée. Et ça, pour un client, ça lui enlève du pied carré qu'il utilise normalement pour ses opérations. Entreposer c'est bien service. Là, on lui demande de mettre une salle à batterie pour laquelle il n'est pas vraiment du tout intéressé à avoir. Donc, c'est... Tout ça combiné ensemble fait qu'il y avait vraiment une demande pour une meilleure solution, la batterie au lithium Igorg.
C'est ça. C'est effectivement, le volume coûte cher. Hein, l'espace de rangement, les loyers coûtent cher et ça se reflète aussi dans les usines et dans tous ces endroits industriels.
Même à plus grande échelle, parce qu'il y a des très grosses usines qui ont des centaines de chariots élévateurs. On peut imaginer la grosseur du problème qu'ils ont. Oui, absolument.
Tu sais, est-ce que, on a mentionné qu'on parlait, qu'on parle, mettons, d'une usine, on parlait tantôt des chariots élévateurs qui sont powered par le propane. Je me demandais, puis ça m'a juste fait penser, est-ce que vous avez des entreprises comme clients qui, eux, ont des requis particuliers qui font en sorte que vous avez des requis à appliquer sur vos batteries? Là, par exemple, quand je t'avais posé la question au début, quand on s'est rencontré, je t'avais demandé pour le food grade, par exemple. Parce que là, OK, du propane, tu peux pas avoir ça dans une usine de nourriture, mais mettons des batteries, on s'entend que des fois de l'acide de batterie où il y a peut-être des composants dangereux ou, tu sais, ou, puis là, tu m'avais peut-être, tu as fait allusion, je pense, à une protection contre les environnements explosifs. Fait que là, tu sais, y a-tu des requis comme ça qui entrent en ligne de compte, des requis spéciaux qu'on s'attendrait pas de ça?
Ben, en fait, je t'avais peut-être mentionné, on n'opère pas vraiment dans les environnements explosifs.
Ah, OK, excuse.
Non, mais c'est correct. Mais oui, on est dans des sites où est-ce que il y a de la nourriture. Donc, le food grade, effectivement, est le cas pour notre station de recharge, entre autres. Il y a des composantes. Il y a une variante qui est faite pour le food grade. En général, je dirais que le type de client, le type de milieu, c'est très, très hostile. C'est un environnement vraiment hostile. Donc, que, première chose, d'abord, les utilisateurs, l'équipement ne leur appartient pas. Donc, les caristes, donc la, prendre soin des équipements, on est loin de la monsieur, madame, tout le monde qui ont leur voiture électrique et leur station de recharge à la maison qui leur appartient, dont ils veulent vraiment être précautionneux de la durée de vie de leur équipement.
Parce que, c'est, là, parce, dans... okay, parce que c'est des employés qui travaillent pour la compagnie puis les chariots sont à la compagnie, mettons?
Exactement.
Ou passer l'eau, OK, c'est bon.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut se conformer à ça. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas essayer de changer ça. C'est fait comme ça, puis ça va toujours être comme ça aussi. Donc, il faut le savoir, puis il faut adopter notre conception pour ces environnements-là hostiles. Et hostiles également dans le sens que le chariot peut opérer dans du moins 30, environnement congelé, environnement chaud, environnement poussiéreux, très poussiéreux dans certains cas. Des... On en voit de tous les sortes, là.
Ah ouais, mais c'est ça, c'est quand même... Ça, c'est impressionnant. Puis tu sais, juste, je te crois, parce que tous les chariots élévateurs que j'ai vus, ils ont tout le temps une quantité incroyable de marques. Ils sont tout le temps rayés à mort, tu sais. En particulier, où les coins, tu sais, de l'appareil, on voit souvent ça, des chariots élévateurs. Tu sais, c'est jamais en état... Tu vois jamais un chariot élévateur qui est comme neuf, là, qui est vraiment... Ben, peut-être que toi, t'en as vu, là, mais moi, mettons...
Il reste pas neuf longtemps, ça, okay. Je peux te dire. Okay. Même notre batterie flambe en neuf qu'ils vont recevoir... Ils vont la rentrer avec un crowbar dans le chariot.
Ah,
c'est
ouais.
Correct, c'est fait comme c'est comme ça, là.
OK. Donc,
les égratignures, ça va prendre une heure, puis ils vont en avoir déjà. C'est bien correct, c'est fait comme... C'est le modus operandi.
OK, fait que là, ces équipes... pas ces risques-là, mais ces environnements à ce style-là, comment vous faites pour intégrer ça dans vos requis puis pour tester adéquatement pour ça? Puis tu sais, même avant de parler des tests physiques, j'étais juste curieux, mettons, les simulations. Tu sais, on le sait... simuler un impact, c'est quand même assez difficile. Ben, je sais pas si... Peut-être que toi, tu dois en faire un petit peu, mais mettons, quand je voulais... Je travaillais dans d'autres industries, puis là, des fois, t'as un objet que tu veux vérifier sa résistance, mettons, lorsqu'il est échappé. Et ça se fait des modèles par éléments finis, tu sais, pour vérifier les forces puis les contraintes et tout ça, mais quand tu parles d'impact, des points, dans le fond, des... comment on appelle ça, tu sais, les concentrations de contraintes dans des points particuliers, la modélisation de ça devient quand même assez complexe de ce que je trouve. Donc, dans votre situation, pour ça, puis les dangers d'explosion, puis les dangers de le froid, le chaud, comment vous faites pour simuler ces situations-là, ouais. Si vous le faites?
Absolument. Je reviendrai peut-être, parce que tu as mentionné plusieurs types de cas de figure, dont premièrement les impacts. Effectivement, oui, il y a des complexités. Tu sais, tout est faisable, là. Sauf que nous, on a vraiment une approche. On va mettre l'effort où est-ce que c'est le plus payant. Donc, disons, pour les impacts, en fait, également, on a une approche expérimentale très, très forte. Test ou failure, tester jusqu'au bris du produit, ça fait partie de notre ADN. Donc, des fois, il faut voir qu'est-ce qui est le chemin le plus rapide entre monter une simulation... faire les calculs. Après ça, il faut toujours se questionner sur la validité du modèle versus le tester. Bien apprendre, tester plusieurs cas de figure, aller jusqu'à la destruction, robustifier le produit, continuer de plus en plus sévère, en plus d'occurrences. Et apprendre de ça, à mon sens, c'est beaucoup plus payant sur la connaissance que d'investir en simulation pour ce cas en particulier-là. Dans d'autres cas, tu faisais mention des essais en général. Nous, on a la sécurité du produit est probablement le point numéro un pour nos clients d'ailleurs. Donc, nous, on le transforme dans notre conception de façon quotidienne. Donc, la sécurité du produit, on peut imaginer un feu de batterie au lithium. Vous avez tous vu des voitures électriques qui passent en feu. C'est très, très sévère comme résultat ou comme conséquence. Donc, on met énormément d'efforts à ce niveau-là. Et là, oui, il va y avoir beaucoup plus d'efforts en amont, en conception. Il y en a aussi tout autant en essai. Mais on a beaucoup plus d'avantages à travailler dans le monde virtuel, à faire des simulations thermiques. Par exemple, une cellule aurait, pour quelconque raison que ce soit, partirait en feu. Où va la chaleur, la température des composantes adjacentes, finalement, pour répondre à la question, est-ce que ça demeure sécuritaire ou est-ce qu'il y a une propagation ou une cascade de feu aux autres cellules? Oui, non. Combien de temps ça prend? Comment on peut éviter complètement qu'il y ait de propagation en général? Donc, ça, dans le monde de la simulation, c'est très pertinent. Ça serait très, très lourd à faire en essai. Mais on le fait également en essai. Puis on a une approche vraiment où est-ce que les essais vont accompagner très tôt dans le processus de conception parce que c'est important. C'est là qu'on a le plus d'impact, c'est au design. C'est pas à la fin quand le produit est conçu, même certifié, qu'on veut s'imaginer dire on veut changer des choses puis rendre le produit meilleur vis-à-vis de la sécurité. C'est au design.
C'est au début.
C'est au début. C'est là que c'est plus rapide, c'est le plus payant parce que tu as le plus d'impact sur le résultat. Donc, j'imagine qu'on pourra peut-être en revenir ou c'est peut-être le moment d'en parler pour les essais de feu. Ben oui. Finalement, on a une approche très, très expérimentale où est-ce qu'on va, on va vouloir comprendre et être impliqué fortement dans ce type d'essai-là pour finalement comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, parce qu'en fait, c'est comme dur à répliquer une cellule qui aura un défaut ou qui prendra en feu. On ne peut pas initier ça. Donc, il y a une technique pour initier un emballement thermique d'une cellule. Il y a plusieurs techniques qui existent. Les techniques n'ont pas tous le même résultat et ça affecte généralement également toute la séquence des événements après. C'est même une complexité dans les essais où est-ce qu'on veut, disons, reproduire quelque chose. Mais le test n'est pas nécessairement représentatif d'une réalité. Donc,
Oui, je trouve ça juste drôle parce que c'est en même temps, c'est une bonne affaire que ça soit fait répliquer, j'imagine, pour vous. Là. Ça veut dire que vos équipements sont vraiment rugged, sont vraiment solides, puis c'est du béton, entre guillemets. Là. C'est difficile à faire des modes de défaillance. Fait que là, OK, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ça, des fois, OK, on veut tester tel phénomène, puis là, qu'est-ce qui arriverait si le feu prendrait par hasard dans telle batterie, puis que là, ça pourrait se propager, mais là, tu fais OK, comment on fait réellement pour causer ça? Tu sais, je t'en parlais, je pense, la dernière fois qu'on s'en était parlé. Je voyais des vidéos des fois, tu vois ça, des vieilles PSP là, ou tu sais, des vieux appareils électroniques qui sont sortis des garde-robes et là, la batterie est toute gonflée. Là, puis je ne sais pas si c'est la même technologie de batterie et là, ça fait tout exploser le case. Puis on dirait que c'est un peu une technologie mystérieuse pour moi parce que ces conditions-là qui génèrent ces problèmes-là sont vraiment pas claires. Tu sais, on connaît toute l'histoire du Samsung, je pense que c'était le Note 7 qui avait pris en feu dans un avion puis qui a déclenché, niveau réglementaire, de ce que je comprends, toutes sortes de ramifications pour la sécurité en transport aérien des batteries, ça a dû avoir un impact dans votre quotidien. Fait que là, comment tu pourrais-tu nous partager? Ou peut-être qu'en même temps, tu peux pas partager parce que peut-être c'est secret professionnel ou peut-être que c'est peut-être que vous voulez pas que les gens utilisent des batteries comme des bombes ou des appareils explosifs, mais comment vous faites pour initier ça, des débris dans des batteries comme ça?
Ben ça, c'est quand même de la littérature connue. Donc, je pense que la façon qu'on le réalise, je parlerai pas de choses confidentielles, ça c'est clair, mais je peux quand même parler des grands principes. Et des facteurs de succès chez nous vis-à-vis de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, premièrement, la chose, comme quand j'expliquais, d'intégrer dès très, très tôt dans le processus de conception ces acquis-là, avoir une bonne base de connaissances, ça, c'est fondamental. Être capable de faire une échelle réduite d'un essai, mais on peut imaginer des cellules cylindriques ou lithium-ion, ben, la première question, c'est est-ce que en fait, question numéro un, quelle est l'énergie qui est relâchée dans une cellule lorsqu'elle part en emballement thermique? C'est une question, idéalement, tu as la réponse, parce que quand tu veux faire de la conception, des modèles thermiques, si tu n'as pas cet élément-là, tu es déjà très mal pris. Puis même déjà de se questionner à ça, c'est un bon signe que l'entreprise met l'effort au très bon endroit vis-à-vis de versus rien faire du tout, même pas penser à ces questions-là. C'est pas de la négligence, mais c'est, disons, une... T'es pas éveillé à ces principes-là, déjà, c'est très, très mal parti. Dans notre cas, c'est tout le contraire. Donc, ces questions-là, on se les pose, on va chercher des réponses et on fait une... Ça, c'est un élément numéro un, la quantité d'énergie relâchée dans une cellule, c'est important. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour canaliser la chaleur au bon endroit pour qu'il n'y ait pas de propagation à la cellule qui est quelques millimètres, un millimètre à côté de l'autre, alors que celle qui part en feu va monter à 800 degrés Celsius.
Ouais.
Après avoir brûlé, où vont les gaz chauds, quelle est la quantité de chaleur ou de gaz généré, la quantité de fumée, la pression qui est produite, c'est toutes des choses qu'il faut savoir. L'incidence de l'état de charge pour la batterie, les modèles, même un modèle versus un autre n'a pas du tout le même comportement. Donc, la façon d'initier l'emballement thermique, tout ça a un effet. Puis, de comprendre ça, puis de se pencher sur ces questions-là va faire que le produit, après ça, va être... très bien conçu pour avoir un niveau de sécurité très, très, très élevé. Là.
OK, fait que mettons que moi, j'ai un iPhone 14. Qu'est-ce que je ne devrais pas faire pour que la batterie explose? Je devrais le poser comme ça.
Ouais, pas mettre un clou dans la cellule, ça va déjà être une bonne chose.
OK, je vais
essayer. Vraiment, en fait, c'est un... Ouais, ou la mettre dans le feu, non plus.
OK, dans le chaud, hein. Ben oui, mais j'avais déjà entendu une histoire de quelqu'un qui était à Vegas puis qui faisait genre 40 degrés au gros soleil puis que son sel juste... Je pense la batterie a comme enflé ou le sel a arrêté de marcher. Mais est-ce que les cellulaires sont équipés de méthodes de protection, mettons, contre les températures extrêmes? Ou tu sais, c'est à quel point... Ouais, si tu mets dans le feu, je comprends.
En fait, je pense que... Je vais être franc, j'ai une compréhension limitée des cellulaires, des batteries cellulaires, mais ce que je peux imaginer, c'est qu'il va y avoir une protection ou une alerte, du moins quand le cellulaire va être trop chaud, va même arrêter de fonctionner. Mais ça n'empêche pas que si tu le mets dans un environnement encore plus chaud, si tu le gardes dans ta poche, tu le laisses au gros soleil ou même dans le feu à la limite, ben tu vas initier un problème sur la batterie. Gonfler, effectivement. En fait, une cellule cylindrique, ça a l'avantage, ça a comme un support quand même bien intéressant. Dans le fond, la coquille de la cellule va finalement, effectivement, simplifier l'intégration de cellules cylindriques dans des produits par rapport à des cellules prismatiques ou juste des pouch cells qu'on appelle, où est-ce que là, il faut avoir une pression, une plage de pression bien connue pour que la cellule puisse gonfler quand elle va vieillir, quand elle va être pleinement chargée versus déchargée, puis pas trop de pression pour générer d'autres problèmes.
Ah ouais, on autorise un certain gonflement dans la vie de la batterie. Ça, je savais pas.
Oui, ben en fait, même dans une cellule cylindrique, il va en avoir là,
okay.
Du gonflement, malgré qu'il y a une coquille en acier assez rigide par sa forme. Mais oui, ça, c'est des principes qui sont quand même applicables à... Oui.
Fait que c'est quoi à peu près la variation de volume en pourcentage qu'on pourrait s'attendre qui est acceptable? C'est quoi, c'est du 10%?
Non, beaucoup moins que ça.
OK.
C'est pas très élevé, là. C'est seulement que... C'est en fait, dans des pouch cells, il faut vraiment permettre cette dilatation-là qui va être probablement de 1%, quelques pourcents. Je n'ai pas le chiffre en tête exactement, mais c'est assez faible.
Fait qu'un pouch cell, ça doit être une pile qui n'est pas nécessairement dans un embout, dans un contenant cylindrique en acier, comme tu mentionnais.
Exactement.
C'est un sac ou quelque chose comme ça, un sac d'aluminium, je ne sais pas quoi.
Okay. Ben, c'est les mêmes matériaux à l'intérieur, sauf que au lieu d'avoir une insertion dans un tube en acier, ça va être de forme très différente, mais ça va être dans une coquille souple.
OK. Donc, quand on voit ce phénomène-là, mettons dans une cellule en pouch, puis ça gonfle. Donc, on peut s'imaginer donc une accumulation d'énergie, ça devient comme hors de contrôle, un peu comme une... Je veux pas comparer ça à ça vraiment, mais tu sais, un peu comme une... La fission nucléaire, là, ça devient out of control, puis l'énergie augmente, puis elle peut pas sortir, puis elle veut s'échapper, puis ça ressemble à quoi un peu le phénomène derrière ça, même si je sais que t'es pas chimiste, là. Puis je sais que vous avez des chimistes d'ailleurs, ou au moins un chimiste chez GoWork, mais on prend par là après.
Ouais, ça aurait pris Gabriel sur la ligne. Mon collègue Gabriel, qui est le quatrième cofondateur de l'entreprise, lui, d'ailleurs, c'est intéressant que t'en parles, il est retourné aux études récemment, faire son doctorat, donc il a une soif de pousser plus loin ses compréhensions fondamentales des cellules lithium-ion. Donc, on pourrait dire que c'est notre chimiste à l'interne, est très, très solide dans l'analytique. Là. Ça, c'est clair. Il serait beaucoup mieux placé que moi pour expliquer ces principes-là.
C'est intéressant. C'est intéressant à la base que vous avez un chimiste. Je serais vraiment intéressé de lui parler, puis c'est peut-être le genre de questions que j'aimerais lui poser. Mais ça fait drôle que vous avez un chimiste finalement. C'est ça, puis c'est lui.
En fait, ça dépend. Si on a des questions plus poussées à répondre, on a un écosystème autour du GoWork pour adresser des questions plus poussées aux besoins. Il faut comprendre d'ailleurs les meilleures personnes pour répondre à des questions de cette nature-là, c'est les fabricants de cellules. Gens qui l'ont conçue et qui la produisent en masse. Donc, la clé du succès, c'est également de se greffer à des bons manufacturiers de cellules, de renommée, au-delà du fait que, disons, qu'ils ne vont pas être un problème d'approvisionnement futur, mais qui ont également, tu sais, qui sont des joueurs sérieux dans le marché, puis qui sont et qui sont compétents dans ce qu'ils font. Là.
Ouais, fait que toi, tu dois avoir un genre de téléphone rouge à ton bureau. Que tu dois, il doit y avoir un gars qui travaille pour la manufacture des cellules que tu dois appeler souvent pour tes questions. « Hey, j'ai fait tel test, puis là, telle réaction, as-tu des idées? » ou
Non, en fait, okay. On a... Non, ben, j'aime l'image, là.
Ouais.
J'aimerais que ça soit ça, mais tu sais, on a... En fait, idéalement, quand on n'a pas ces questions-là ou ces problèmes-là, c'est que c'est bon signe aussi, c'est que le produit ouais. opère bien.
C'est vrai.
On n'a pas à se rendre jusque-là. C'est plutôt de l'accompagnement, souvent dans les débuts, lorsqu'on veut, disons, on se questionne sur des nouveaux modèles de cellules ou on veut développer un nouveau produit qui aurait des caractéristiques d'opération un peu différentes. Ça va être en amont dans le processus qu'on va devoir avoir ces questions-là, mais c'est... Non, c'est pas... Il n'y a pas le téléphone rouge qui sonne à tous les jours. Non, mais
des fois, il y a de l'équipement électronique. C'est juste une parenthèse. Bon, moi, je suis en mécanique, OK? Je suis pas en électronique, mais des fois, il y a de l'équipement électronique qu'on veut asservir dans les emplois que j'ai eus. Et là, ce qui arrive, c'est que l'ingénieur électrique, il regarde la documentation qui est fournie avec l'appareil, mettons un moteur électrique, puis la documentation n'est pas complète, où il y a des problèmes avec le moteur, il y a des problèmes, des choses qui ne se passent pas comme il devrait. On dirait que ça arrive tellement plus souvent que là... Les ingénieurs électriques, mettons, rappellent les fournisseurs pour des questions comme ça que, mettons, en mécanique, moi, j'ai à faire. Tu sais, c'est le genre d'affaire que c'est un système assez complexe, tu sais, une carte électronique. Puis là, c'est OK, tel circuit, comment ça marche, tel code d'erreur, c'est quoi? En tout cas, c'est juste une pensée,
oui. C'est un bon point que tu mentionnes. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une aussi bonne maîtrise de notre produit. C'est qu'on est les concepteurs des cartes électroniques, on est les concepteurs du BMS. Donc, je peux imaginer la question que tu as puis les éléments que tu mentionnes quand, advenant le cas qu'on aurait acheté un BMS d'une tierce compagnie pour laquelle il y a des éléments qui sont plus ou moins bien compris ou que l'intégration avec notre produit est mal comprise. Mais quand on est les concepteurs des BMS, ça va très, très bien. Concepteur du battery pack, de la cellule à l'ensemble complet, on comprend très, très bien les enjeux de sécurité, comme je te mentionnais, la performance. Veillez à ce que toutes les cellules vivent également de la même façon, donc on voit les mêmes températures. On peut imaginer une grosse batterie, il peut avoir plusieurs milliers de petites cellules, 18650. Et il ne peut pas avoir des cellules qui sont à 14 degrés plus chaudes que d'autres. Elles ne vont pas vieillir à la même vitesse, ça va amener des problèmes. Donc on veut que ça soit uniforme. Pareil pour le courant, on veut que les courants soient... Chaque cellule ait le même environnement vu que ses confrères. Ça donne plus de chances pour avoir la plus grande durée de vie que ce soit, de par notre modèle d'affaires aussi qui est du Energy as a Service. Certains de ces équipements-là nous appartiennent, donc on a tout avantage à ce que ça vive longtemps.
Tu as mentionné BMS. C'est-tu Battery Master System?
Battery Management System?
Ah, j'étais pas loin. J'étais
pas loin. Non, c'est assez okay. simple. En fait, une batterie, il y a 5 choses à faire à prévenir ou de... Les fonctions primaires du BMS, c'est d'éviter surcourant sur les cellules, surtension, surtemperature, sous-tension, sous-température. Donc, c'est 5 choses à faire. Après ça, il y a tous les systèmes périphériques, donc les éléments chauffants qui vont être asservis parce que lorsque les batteries opèrent dans des environnements congelés, il faut chauffer les batteries. Il y a aussi, on a des chargeurs intégrés dans le produit, donc il y a toute la communication avec les chargeurs, il y a des capteurs de courant, des contacteurs, un buzzer, un élément sonore, un HMI, plusieurs autres affaires qui sont en périphérie des 5 fonctions de base pour la batterie.
Fait que ouais, ça me semble être quand même des systèmes assez complexes. Puis là, je pense que ce qu'on parle là, c'est peut-être une belle opportunité pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail des produits que vous offrez, parce que tu en as parlé un petit peu tantôt, par exemple, toute la question du système intégré, de la recharge intégrée. En particulier, ce que j'aimerais commencer en lien avec ce point-là, c'était que dans le fond, bon, vous offrez des produits à des clients, mais ces clients-là utilisent vos produits avec des chariots mais qui ne sont pas vraiment à vous. Là. Le chariot élévateur, ce n'est pas votre design, ce n'est pas votre produit que vous vendez.
Pas du tout.
OK, c'est ça. Donc, des fois, j'imagine que ça doit peut-être être un peu tricky à naviguer la responsabilité s'il y a des problèmes qui arrivent. Mais là, de ce que tu me dis depuis tantôt, j'ai l'impression que vous faites vraiment bien votre travail et qu'il n'y a pas vraiment de problème qui arrive parce que vous testez bien et vous êtes très robuste dans votre design. Mais des fois, tu sais...
Ouais, ben, en fait, oui, il y a la portion robustesse du produit, mais il y a en fait un des piliers de GoWork, c'est qu'on a proactive expertise. Donc, même également, on n'a pas peur de... En fait, les problèmes des clients sont au cœur de notre entreprise, puis ce qu'on veut, c'est d'offrir des solutions. Donc, quand tu mentionnes qu'effectivement, la batterie et le chariot sont deux unités différentes, et on peut imaginer quand, dans l'architecture des autres solutions qu'on voit sur le marché de batterie au lithium, il y a des chargeurs externes, eh bien, il est quand même assez commun que ces systèmes-là ne fonctionnent pas bien ensemble et qu'il y a des problèmes. Et là, c'est le jeu du hey, c'est la faute à tel équipement. Non, c'est pas ma faute. C'est la faute du chariot. Non, c'est la faute du chargeur. C'est la faute de la batterie. Finalement, lui, le client, il a des problèmes. Son chariot a arrêté de fonctionner. Puis la seule chose qu'il veut, c'est pouvoir fonctionner. Donc, HugoWork, on n'a pas peur du tout de régler les problèmes. Puis, d'avoir les chargeurs intégrés, c'est un élément de succès fort important parce qu'on a le contrôle de ce sous-système-là. Puis on veille à ce que ça fonctionne pour le client. Pareil pour le chariot, quand il y a des problèmes entre les deux, on n'hésite pas à se déplacer. En fait, également, on a beaucoup de télémétrie sur la batterie, donc ça nous aide également à avoir un état des lieux, savoir qu'est-ce qui se passe. On va faire un diagnostic. Déjà, c'est beaucoup plus facile quand tu sais quel était l'état avant, puis quel est l'état maintenant. Puis après ça, on va vraiment avoir un support vraiment très, très, très serré avec le client pour veiller à ce qu'il puisse opérer le plus rapidement possible et qu'il y ait le moins de downtime possible. C'est encore aujourd'hui un facteur de différenciateur énorme pour nous.
Ouais, c'est tout le... On dirait que ça rentre un petit peu dans toute la notion que je m'étais fait mentionner par ami, je crois, Energy as a Service, que vous vendez quand tu parles de télémétrie, là. Je trouve ça super intéressant. C'est ça que vous analysez les données basées sur vos batteries et vous pouvez ensuite de ça offrir des services reliés à ça, offrir peut-être des recommandations, je crois.
Fait
que c'est quoi un peu les services offerts autres que la simple vente de batteries? C'est pas si simple que ça à concevoir, j'imagine.
Mais c'est simple parce qu'une batterie, c'est simple. C'est juste une batterie. C'est l'énergie, okay. C'est le cœur du chariot élévateur. Faut pas voir ça plus compliqué que ça l'est. C'est très, très simple dans la vie globale.
Okay.
Mais après ça, quand on a une bonne batterie, on couple ça avec un bon chariot, ça fait un chariot élévateur qui est optimisé. Puis quand après ça, on a une flotte de chariots élévateurs optimisés, on est capable d'avoir un écosystème qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Puis lorsqu'on a après ça une vue sur le fonctionnement de ces unités-là, on est capable d'optimiser les opérations du client. Donc, réduire la flotte de chariots pour faire le même travail. On est capable de voir qu'il y a des chariots qui sont moins utilisés que les autres à des moments bien précis. On peut, améliorer les opérations pour qu'ils puissent augmenter sa productivité ou relocaliser certains de ces chariots qui sont moins utilisés pour qu'ils puissent faire le même travail avec moins d'équipement. Très, très important. C'est un élément différenciateur aussi pour nous. Même après ça aussi, donner un peu l'autonomie restante. En fond, informer ça, c'est pas le cariste, c'est plutôt le chef de l'usine ou celui qui va finalement le chef de corps qui va veiller aux opérations de l'entrepôt. Il a besoin de savoir là, qu'est-ce qui se passe avec ses équipements. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il devrait charger tel chariot parce qu'il n'a pas été adéquatement chargé dans le shift d'avant? Est-ce qu'il va manquer d'énergie auquel cas il doit prendre action? Est-ce qu'il y a des chariots qui sont simplement hors fonction pour le moment? Tout ça, c'est intéressant, puis pour lui, il a énormément de valeur pour maximiser ses opérations.
OK. Fait que c'est cette analyse-là qui les impacte. Fait que je vois un peu l'offre de service là-dedans, puis en tant qu'ingénieur mécanique principal, est-ce que ça a un impact dans ton quotidien ou peut-être pas vraiment, vu que toi, t'es peut-être plus dans les tests et tout ça?
Pas dans mon quotidien, nécessairement, non. Dans le niveau de robustesse, de fiabilité de la solution, moins de bris de l'équipement, mieux les opérations du client vont être. Donc, ça serait plutôt à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le département de Customer Success qui vont veiller à ce que les clients aient une visite. Même, en fait, on a un portail qu'on a relâché il y a récemment, qui est Hugo Pilot, qui finalement vient donner un peu les clés ou une vision directement aux jeunes chez nos clients, plutôt que ce soit nous qui puissions, disons, faire le traitement des opérations, donner une vue sur, disons, l'inactivité de ses chariots, des métriques qui, lui, sont utilisées quotidiennement. On a déployé récemment un portail qui va viser à ce que les clients aient un meilleur accès à l'information plus rapide sans que ce soit notre département qui le fasse à leur place, là.
OK. Ouais, j'aime vraiment le nom du département de Customer Success. À la place de Customer Service, ça, c'est une petite parenthèse. fait que, OK, puis écoute, on commence quand même à s'enligner vers la fin de ce qu'on voulait parler. J'ai peut-être une petite question ouverte pour terminer, puis ensuite de ça, je te passerai le micro s'il y a d'autres affaires qu'on n'a pas eu la chance de discuter que tu aimerais mentionner. Mais c'est peut-être une question un petit peu trop large pour toi, parce que j'ai l'impression que tu vas peut-être me référer plus à des chimistes ou plus aux entreprises qui font les batteries, mais ça ressemble un petit peu à quoi le futur des technologies des batteries? Bon, vous êtes un peu positionné, vraiment, ça fait vraiment une partie centrale de ce que vous faites. Est-ce qu'on peut s'imaginer que ça va être quand même relié au lithium-ion, qui est quand même très populaire de nos jours? On pense à toutes les voitures électriques, les électroniques, les consumer electronics. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer que plutôt il va y avoir une nouvelle technologie qui va être plus énergétiquement dense, un peu comme il y a eu dans la transition que tu nous as parlé de la batterie au plomb vers la batterie au lithium-ion?
Ça bouge tellement vite, ce marché-là. Pas parce que le char levateur électrique est là, il y a d'autres applications électriques qui mettent une pression énorme pour augmenter la densité d'énergie, tu le mentionnais, pour réduire le poids. Augmenter l'autonomie des véhicules électriques, c'est quelque chose pour lequel il y a énormément de compagnies qui travaillent là-dessus activement. Il y a effectivement des déclinaisons, des nouvelles chimies qui sortent. Puis s'il fallait qu'on regarde ça activement, ça prendrait des gens qui feraient de la veille technologique constante pour faire ça, parce qu'il y en a tellement de travail à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire, c'est un peu une balance entre, trouver des joueurs ou des partenaires ou des chimies pour nous qui vont rencontrer notre cycle de vie de produits. Parce qu'il fallait qu'on change à chaque fois qu'il y a quelque chose de meilleur qui existe sur le marché, on serait constamment en train de reconcevoir nos produits. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, trouver un peu une juste balance entre est-ce que ça nous satisfait? Est-ce que ça rencontre nos objectifs de prix? La pérennité de l'approvisionnement dans le temps? Est-ce qu'il y a des alternatives d'approvisionnement? Puis, les formats. Tu sais, il y a tellement de questions qu'on peut se poser que je pense que c'est un peu une réponse, c'est un peu tout ça ensemble. Il y a énormément d'avancées dans ce marché-là. Puis je pense que Gabriel, son objectif, c'est justement de bonifier sa compréhension qui va venir la nôtre, parce qu'il va être encore avec nous après, je le souhaite. Augmenter notre compréhension des mécanismes de vieillissement et de modélisation, mais aussi de comprendre un peu dans l'inventaire, qu'est-ce qui existe, puis est-ce qu'il y existe d'autres choses d'encore mieux ou qui s'en viennent qu'on va pouvoir bénéficier dans le futur, là.
Ouais, tu me l'avais mentionné, tu sais, quand on s'en parlait, que quand par rapport au. Puis je reviens un petit peu sur ce que tu disais, mais tu sais, par rapport au chariot élévateur, tu sais, bon, vous ne les fabriquez pas, c'est, mettons, des compagnies, je pense, comme Honda qui en fabriquent. C'est
Toyota,
sûr que eux.
Toyota, Istoriel, Raymond, Crown. Oui.
Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis là, vous essayez de faire un produit qui est compatible avec tout ça. Puis là, eux, en même temps, ils doivent évoluer un peu leur technologie, ils doivent évoluer leur chariot élévateur. Fait que tu sais, c'est un lien-là. De ce que tu m'avais dit, de ce que je me souviens, tu m'avais dit que bon, ben, les produits de leur côté évoluent pas énormément rapidement. Ça vous laisse quand même de la latitude pour évoluer vos produits en parallèle puis en symbiose avec eux. Je sais pas si c'est une belle manière de représenter ce que tu as dit la dernière fois.
C'est sûr que les manufacturiers de chariots c'est des très grosses compagnies. Ils n'ont pas l'agilité ou la vélocité que nous on a. Par contre, c'est sûr que dans le futur, faut, à mon avis, ne pas seulement viser de faire des rétrofits chez des clients. Il faut aussi avoir des liens forts avec les fabricants de chariots, les OEM, parce que des solutions intégrées de batteries au lithium, des meilleurs arrimages, tu sais, ça va être la clé du succès, là. C'est là que le volume il est aussi. C'est là qu'avoir des bons liens avec les OEM donne accès à une plus grande capacité de vente, un plus grand réseau de vente à travers les distributeurs. Donc, on a tout à notre avantage d'être à proximité d'eux, puis de les supporter dans leurs demandes. Mais c'est sûr qu'effectivement, on se rend compte que c'est des grosses compagnies, des grosses corporations qui bougent pas très rapidement. Mais quand ils bougent, par contre, ça, c'est pour le mieux. Puis, il y a du volume associé et on sait qu'il y a de la pérennité après. Donc, c'est à notre avantage d'avoir également le focus là-dessus sans jamais perdre de vue le client ultime. Puis,
Je trouve que ce que tu mentionnes, c'est vraiment une belle manière de terminer l'entrevue. Puis je trouve que ça résume bien quand même la thématique principale qui est, je trouve, par rapport aux entreprises qui sont quand même assez bien spécialisées dans les produits. Puis on voit ça de plus en plus, tu sais, des entreprises. Bon, là, comme je mentionnais tantôt, Rhinovision, dans l'épisode, l'inspection des regards, c'est assez précis comme marché. Le HugoWork des batteries élévateurs, c'est très précis. J'ai l'impression que les entreprises ont de plus en plus tendance à se spécialiser dans des choses assez précises plutôt que d'intégrer plusieurs. T'sais, de faire, mettons, des voitures, t'sais, c'est tout le temps de la sous-traitance, des sous-composants, et après, on vient tout intégrer ça ensemble. Donc, je trouve ça quand même beau ce que tu dis, qu'au final, la clé un peu dans tout ça, ça va être d'avoir une meilleure communication entre ces différents spécialistes-là pour vraiment juste avoir le meilleur produit final possible.
Tout à fait.
Génial. Moi, ça concluait pas mal de mon côté. Y avait-tu des points que tu aurais aimé mentionner qu'on n'avait pas eu la chance de parler ou un micro de la fin, là, sinon un mot de la fin?
Non, non, j'ai pas de points supplémentaires à mentionner. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de m'exprimer aujourd'hui. Puis, il va falloir qu'on reprenne ça sur un autre sujet éventuellement.
Ben oui, certainement. N'importe quand que vous avez un nouvel item, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez toujours un micro là, sur Accès Innovation. Là, puis c'était vraiment génial. Merci énormément, en fait, à toi d'avoir accepté puis d'avoir participé à ça. Puis je suis content parce que les batteries, ça a toujours été un peu un sujet qui m'a mystifié. Puis surtout les dangers reliés aux batteries parce qu'on entendait plus parler dans les dernières années. Fait que ça aussi, je suis vraiment content qu'on ait pu en parler. Puis surtout, vu que tu es comme spécialiste là-dedans, vu que tu fais les tests. Là. Tu fais des tests. Donc, génial. Comment?
J'ai dit « Oh oui, oui, on en fait des tests.
» C'est ça, là, c'est vendredi PM, mais là, tu vas retourner chez HugoWork, tu vas aller faire d'autres tests, non, c'est pas vrai. Je te le souhaite pas, vu que c'est vendredi.
Ah bon, tu travailles pas le samedi, toi?
Non, non, c'est ça. Oh fuck, OK. Oh my God. Excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Donc, merci énormément encore pour ta présence, Marc-Olivier. Et merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.